Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier numéro Patara du mois d'octobre 2021. Nous parlons du taux élevé du féminicide ces derniers temps en Centrafrique. Lina Ekomo, présidente du réseau de leadership pour la femme, dresse un bilan sombre.
On parle de phénomène nouveau parce que c'est quand même la première fois qu'on puisse enregistrer un nombre aussi élevé de femmes qui sont tuées par leur conjoint dans leur foyer. Depuis le début de l'année 2021, on a enregistré plus de 15 cas maintenant. Des femmes qui ont été abattues froidement par leurs époux ou alors des femmes qui sont décédées suite aux coups et blessures causés par leurs conjoints. Donc c'est effectivement un phénomène nouveau.
Les violences faites aux femmes prennent de l'ampleur et inquiètent plus un. Radio Nekiluka s'intéresse à cette problématique. Les principales questions de ce débat sont entre autres comment expliquer la montée de meurtres de femmes et de filles ces derniers temps en Centrafrique, que fait concrètement le gouvernement pour protéger les femmes et les filles dans ce pays en proie à l'insécurité. Que font les femmes pour lutter pour leur cause? Nous allons dans un instant et avec nos invités éplucher toutes ces interrogations. Maître Arlette Sombo Dibélé, bonjour. Avocate et membre de la société civile, Générale Jacqueline Koyambounou, bonjour.
Bonjour.
Juriste, présidente du caucus des femmes leaders pour la promotion de la parité, Madame Léamboa Doumta, bonjour.
Bonjour Armando.
Ministre du Commerce et coordinatrice de la plateforme BO Caucus soutient le pouvoir, Aoulin, et aussi présidente de l'ONG Aoulin, Madame Candide Mokama, bonjour.
Bonjour.
Directrice générale de la famille au ministère de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant. Et Joseph Bindoumi, bonjour.
Bonjour.
Inspecteur général des services judiciaires, Armando Anguindi, c'est moi. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Nekiluka.
Ouvrons ce débat avec ce élément d'illustration du meurtre d'une femme par son mari. L'acte s'était produit au quartier Malimaka Bongi. Je vous invite à suivre le témoignage de Adiza, voisine directe de la victime.
Na dutingotlo na kolitlo niso carrément kolini ayeti tene que a voisin.
Son mari n'apprécie pas du tout sa collaboration avec ses voisins. Quand elle essaie d'échanger avec d'autres personnes, ce dernier va la frapper violemment et si les voisins voulaient intervenir, le mari devient de plus en plus hostile et s'en prend à tout le monde. La dernière fois, il a même cassé le bras d'une personne qui voulait intervenir pour les séparer. Nous ne savons pas ce qui s'est passé cette nuit. Les parents de la femme sont arrivés en pleurant, annonçant que leur fille a été tuée cette nuit, que son mari l'a battue à mort.
Voilà, c'est le premier témoignage de ce débat politique aujourd'hui. Nous allons faire le tour de la table pour comprendre. Première question à vous, M. Joseph Bindoumi. Que vous inspire ce témoignage?
Je vous remercie. Vous avez bien annoncé que nous allons débattre des questions des hommes qui tuent leurs femmes. Et ce témoignage est un témoignage émouvant qui appelle l'attention de tout le monde. Mais comme nous allons, au cours de ce débat, rechercher quelles sont les causes qui amènent les hommes à tuer leur propre épouse, comment est-ce que le gouvernement peut faire pour arrêter le phénomène? Que font les organisations de la société civile pour que ce genre de comportement arrête? Je crois que c'est ça qui fera l'objet d'autres débats et nous sommes prêts de discuter de ça avec nos consoeurs qui sont ici. Je voudrais situer le public. Je suis le seul homme à débattre en présence des femmes. Je salue très respectueusement Madame la ministre du Commerce et puis les autres avec qui on a l'habitude de changer ici. J'espère que ce débat, qui sera sans tabou, nous permettra de débattre la question en nous respectant les uns et les autres.
Et vous, Madame Jacqueline Koyambounou, vous avez écouté ce témoignage, c'est émouvant selon vous?
Oui, effectivement, Monsieur Armando, ce témoignage est émouvant. C'est vraiment un cas parmi tant d'autres. Hein. C'est pour cela que les femmes leaders se sont levées pour dénoncer tous ces cas de barbarie.
Madame Léamboa Doumta.
Je pense que le décès d'un être humain et de surcroît le décès d'une femme, c'est un drame pour une famille et le réseau des femmes leaders a joué son rôle en tirant sur la sonnette d'alarme et je pense que c'est pour cette raison que nous sommes ici, pour éviter que cela ne continue, pas seulement que pour les femmes, mais tous les êtres humains, tous les Centrafricains qui ont besoin de protection.
Madame Sombo Dibélé.
Oui, j'ai bien suivi l'intervention de Madame Ekomo, mais je ne pense pas qu'on puisse parler des prime abord de phénomène nouveau. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène social dont la négligence à apporter des solutions conduit aujourd'hui à un fait politique. Donc je pense qu'on aura le temps, l'occasion d'aborder les différents aspects. Mais on était parti à l'époque de crimes dits passionnels, où le mari tuait par amour, pour arriver à une réalité plus objective qui parle d'homicide conjugal et même mieux de féminicide. Donc vous voyez qu'il y a une évolution dans la société de l'appréhension de ces violences-là. On aura l'occasion de parler de ce qui est déjà fait en Centrafrique, parce que nous avons beaucoup de textes, hein, nous avons même des institutions.
Mais déjà, quand vous avez la parole, je vous permets d'évoluer dans cette lancée pour gagner du temps.
Donc nous avons qui a été une institution qui a été créée, un organisme, en 2015, UMIR, dont le rôle est de lutter contre les violences. Au départ, c'était des violences sexuelles. Maintenant, on parle de violences basé sur le genre et même de violences faites aux enfants. Donc je pense qu'avec ce type d'outils, et nous avons des juridictions, nous avons le tribunal qui statue en matière correctionnelle, qui peut connaître de toutes ces violences-là, mais je pense que s'il y a des textes, s'il y a des victimes qui se plaignent, mais qu'il n'y a pas de suivi, et qu'en bout de piste, on aboutit à l'accroissement de ces cas-là, il y a un problème. Il y a un problème de politique judiciaire, de l'administration de ce type de dossier-là. Donc je crois qu'on pourra aborder cela. Ça tombe très bien parce que nous avons avec nous l'inspecteur des services judiciaires. Je me réjouis beaucoup qu'il soit là parce que j'aurais beaucoup à dire.
On aura le temps. Merci. Madame Candide Mokama, je rappelle que vous êtes directrice de l'information et de l'éducation en matière du genre au ministère de la protection de la femme, de l'enfant et de la famille. Oui, votre réaction rapidement sur l'élément, le témoignage du meurtre que vous venez d'écouter.
Je me dis que le gouvernement a ce devoir de protéger la population. Et quand on parle de population, nous avons les hommes, les femmes, les enfants, jeunes. Ça peut être garçon et fille. Mais particulièrement, nous avons dans notre département la mission de protéger tout le monde, bien sûr, mais particulièrement les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que ce sont les femmes qui sont les plus vulnérables. Ça se désigne ici par ce témoignage-là. On en a connu ces derniers temps. Pourquoi? Pourtant, au niveau du département, il y a plusieurs activités qui sont menées dans ce sens. Nous avons des instruments juridiques qu'on travaille avec, que ce soit internationaux ou nationaux. Nous avons aussi mis en place, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'UMIR et tout ce qui concerne les activités de sensibilisation, de formation et tout ça là, pour protéger la femme. C'est dommage qu'aujourd'hui, encore dans ce pays, on continue de tuer les femmes, c'est pour le dire.
Mais tous ces instruments juridiques ou bien tout ce que vous avez mis en place, est-ce qu'il y a l'efficacité? Vous avez mesuré l'efficacité de tous ces instruments juridiques sur le terrain?
Les instruments sont là. Nous avons besoin de tout le monde. Société civile, que ce soit le gouvernement, la communauté et tout le monde, que ce soit les parents, la famille, tout ce monde-là doit agir. C'est un engagement pour tous. Aujourd'hui, les textes sont là, mais si on ne dénonce pas, on ne saura pas. Si c'est flagrant aujourd'hui, c'est parce qu'on a tué, on a vu de nos propres yeux la mort. Mais quand on parle de violence basée sur le genre, il y a ceux qui pensent que ça n'existe pas dans ce pays. Mais on continue de constater, on continue de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en ratifiant ces instruments juridiques, hein, en mettant en place des mesures. Et tout ça là, jusqu'à aujourd'hui, ça ne passe pas. C'est pour dire qu'il faut continuer avec la sensibilisation. Et pas seulement la sensibilisation. Si je me rappelle bien, ça a été dit dans le discours du président que zéro impunité.
Trois femmes tuées à l'intervalle de 2 semaines. On n'a pas écouté votre ministère condamné. Comment fonctionne votre service?
Oui, vous l'avez si bien dit, mais je crois que le département travaille ensemble avec la société civile, les ONG et autres, tout ce monde-là. Nous sommes ensemble. Si la société civile décide de faire quelque chose, nous sommes avec eux, avec cette société pour les accompagner parce que la société civile, le gouvernement s'appuie sur les ONG. Donc on est ensemble pour travailler. Tout le monde ne va pas parler la même chose à la fois. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui parle au nom des autres et puis les autres soutiennent.
Votre ministère est ministère tutelle des femmes.
Oui, c'est ministère tutelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on travaille en collaboration. Ça a été fait. Vous verrez que même au niveau du département, toutes ces associations-là, vous verrez que nous sommes partie prenante
dans tout ça là. Ce sont nos voix qui sont portées à travers la société civile. C'est vrai, si vous le dites, peut-être que vous voulez que ça soit marqué en disant que le département a fait ceci. Mais je pense que tout ce qu'on fait, les associations, les ONG font, c'est en partenariat avec le ministère. Donc il est question maintenant de voir qu'est-ce que le ministère doit faire concrètement pour qu'on puisse apporter main forte aux associations, les soutenir.
Madame Léa Mouadoumta, vous voulez réagir?
Oui, je vois que tout à l'heure, ma sœur Arlette a mentionné l'UMIR qui joue un rôle important. Mais l'UMIR, c'est très petit et les crimes se passent dans les familles. Et l'UMIR n'a pas accès à ces familles-là. Par contre, au niveau du département du social, nous avons les chefs de secteurs sociaux dont le rôle est d'encadrer les familles. Malheureusement, avec les multiples crises que nous avons connues, ces acteurs-là ne jouent plus leur rôle. Donc, les familles sont abandonnées à elles-mêmes. Donc, il est question de remettre les activités des chefs de secteur sociaux pour l'encadrement des familles. Ailleurs, on s'occupe des familles. S'il y a ce type de querelle-là, les voisins, les voisines peuvent témoigner. Et à ce moment-là, il est question d'agir pour prévenir plutôt que d'attendre que la personne meure avant de réagir. Donc aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en place progressivement et les chefs de quartier également devraient jouer leur rôle. Et si aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en train d'aller vers la décentralisation, c'est pour nous permettre d'être plus proches des populations pour cet encadrement. Mais donc, comme l'a dit ma fille du ministère de promotion du genre, tout le monde devrait se donner la main pour les dénonciations, pour la protection. Malheureusement, nous n'avons pas encore une bonne solidarité pour le faire. Mais progressivement, je pense que les choses vont se mettre en place pour que les populations soient protégées.
Oui, madame Jacqueline Kouambono, vous étiez directrice de la brigade criminelle à Bangui. Ouais. Quelle explication peut-on donner à ce meurtre de femmes ces derniers temps?
J'étais directrice de la police judiciaire, c'est vrai. C'est depuis 3 ans que je suis à la retraite. Mais permettez que je vous donne la liste des cas qu'on a eu à enregistrer pendant notre rencontre avec les femmes leaders la semaine passée. C'est qui nous a vraiment poussé à faire cette déclaration que Madame Lina Ekomo a lue. À Bimbo, il y a une gendarmette qui a été tuée par son mari. À Boire, une dame a été tuée également par son mari. Et tout ça, ça reste sous silence. Hein. À Douala, un Camerounais vivait avec une Centrafricaine, une jeune fille. Et elle a été abattue par ce Camerounais-là. Et on a ramené le corps ici, une Centrafricaine. On a ramené le corps ici pour enterrer. Et rien n'a été fait. Je me rappelle qu'en 2013, j'ai des preuves, un Centrafricain avait tué un Camerounais ici. Le gouvernement camerounais a demandé que ce Camerounais-là, que ce Centrafricain soit jugé au Cameroun. C'est moi qui l'ai accompagné pour le déposer à Douala. Alors, si des cas comme ça se produisent, nous ici, comment nous pouvons savoir que l'auteur de ce cas de meurtre à Douala a été arrêté et inquiété? Est-ce que le consulat suit les Centrafricaines qui sont à Douala et qui sont maltraitées par ces Camerounais, par ces gens de Marie? À Gobongo, une mère de 7 enfants avec une grossesse de 4 mois a été tuée par son mari qui est militaire. Elle se prénomme Judith. Dans le 5e arrondissement, c'est une mère de 7 enfants qui s'est fait abattue par son mari gendarme la semaine passée. Et à Bégoua, une dame de 3e âge a été victime d'un viol collectif. Elle a succombé à la suite de ce viol-là. Dans le 7e arrondissement, une belle-mère a été poignardée par son gendre parce que semble-t-il, c'est la belle-mère qui l'empêche d'épouser sa femme. Et il l'a suivi dans le champ pour aller la battre là-bas. Dans le champ, il est revenu avec le couteau pour montrer à ses enfants qu'il a déjà tué. Et là, ce qui fâche, c'est quoi? C'est que ces auteurs-là se retrouvent en liberté après 2 ou 3 jours d'arrestation. C'est vraiment déplorable. Ils se pavanent dans le quartier et ils narguent encore la famille. C'est ça qui fâche.
Mais comme vous l'avez dit, la plupart des cas restent impunis. C'est le cas d'une femme tuée par son mari le 11 septembre dernier. Je comprends que vous avez déjà mentionné. Le présumé criminel aurait été libéré. Les parents se posent la question de savoir s'il existe vraiment la justice dans ce pays. Rosine Dabada, l'une des parents, elle témoigne au micro de Gisèle Egué. On va écouter.
Je suis mécontente parce que le mari de ma fille qui l'a tuée est libéré de prison. Bien avant, des rumeurs circulaient qu'il aurait été libéré. Et aujourd'hui, nous l'avons vu de nos propres yeux. Il est avec ses parents. Je l'ai vu vêtu en blanc et ses cheveux rasés. Nous sommes remontés. On se pose la question, est-ce qu'il existe vraiment une justice dans ce pays? On l'avait emmené à la brigade criminelle. Mais comment comprendre qu'il soit libéré une semaine après son crime? Qui l'a libéré? N'y a-t-il pas de garde à la brigade criminelle? Et puis il dit qu'il a reçu mandat de sortie. Mais de qui? Nous demandons au gouvernement de veiller sur ce qui se passe contre les femmes. Nous sommes en danger. Ce monsieur était criminel. Il s'était enfui de prison pour Brazzaville lorsqu'il avait tué son cousin. On a aussi retrouvé des ossements humains dans ses affaires. Vraiment, qu'est-ce qu'on va faire?
Qui peut ordonner, dans quel cas, la libération d'un tel présumé, M. Bindoumi?
Bon, le dossier dont vous faites état est un dossier qui est arrivé à l'inspection générale des services judiciaires. Nous avons reçu hier cette dame qui nous a montré les photos de la victime et qui nous a indiqué le caractère rocambolesque de cette procédure depuis l'arrestation jusqu'à la libération. Et l'inspection des services judiciaires a entamé des investigations, d'abord pour savoir pourquoi la justice s'est comportée avec beaucoup de légèreté sur ce cas, et puis quelles sont les solutions qu'on va trouver, non seulement pour rétablir l'ordre en ce qui concerne le fonctionnement de la justice, et puis voir si les magistrats qui ont posé l'acte l'ont fait délibérément. Ça, c'est le travail que nous faisons. Nous avons beaucoup de travail comme ça. Là, c'est un cas de meurtre. Il y a aussi d'autres cas, peut-être qu'on reviendra tout à l'heure, pour mettre au devant de la scène des hommes, parfois des hommes en tenue, qui torturent leur épouse. On en parlera. Donc, je voudrais réfléchir à haute voix avec vous pour que nous regardions la question de manière plus large. Vous savez, nous sommes au 21e siècle. Le problème de féminicide est un problème qui se pose dans la différence entre deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Et on a constaté que donc ce genre de comportement, c'est surtout le sexe masculin qui le pose sur le sexe féminin. Mais qu'est-ce que s'en rend compte dans le monde? Dans le monde aujourd'hui, la notion du genre n'est plus prise en considération. Dans le monde au 21e siècle, ça veut dire que les femmes peuvent s'épouser entre femmes. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'il y aura un meurtre, on ne parlera plus de féminicide. Les hommes aussi peuvent s'épouser entre hommes. Et je signale que quand les hommes qui s'épousent entre les hommes, il y a toujours un homme qui joue le rôle de la femme, tandis que l'autre homme joue le rôle du mari.
La preuve que la nature fait bien les choses, bon, c'est obligé d'être la copie.
Et donc, vous avez compris, le contexte est global. Mais vous revenez au contexte centrafricain. Nous sommes un pays en guerre. Et aujourd'hui, le nombre de meurtres que nous connaissons pendant cette période, est tel que nous n'avons pas connu avant. Maintenant, si nous regardons les meurtres plus globalement, en disant pour cause de guerre, nous avons des braquages qui tuent les gens, nous avons des gens qui meurent sur le terrain, nous avons des innocents qui sont tués, c'est quelque chose que nous déplorons tous. Maintenant, quand on descend en profondeur, on arrive à la situation, pourquoi un homme décide d'exercer la violence extrême sur la personne qui plus est son partenaire, la mère de ses enfants, sa femme, etc. Et je voudrais dire ici que nous avons relevé, je félicite le travail fait par l'équipe de Madame Kouyambounou, nous avons relevé le cas de femmes, mais ce cas-là est une goutte d'eau dans la mer, puisque nous l'avons recensé autour de Bangui. Mais maintenant, quand on ajoute à cela le nombre de cas de femmes qui sont tuées, dont le bruit n'est pas sorti jusqu'aux oreilles des associations, lorsqu'on prend les cas des femmes qui sont torturées, puisque j'en ai eu hier, torturés par leur propre mari, amenés dans un commissariat de police, séquestrés pendant 5 jours, ramenés, les enfants de la femme détachés, jetés d'un quartier à un autre, que la justice ne permet même pas à la femme de voir ses propres enfants, dont le dernier a 4 ans. Vous comprenez qu'il y a des comportements globaux sur lesquels l'État centrafricain doit réfléchir énormément.
Je vais revenir avec vous pour parler du rôle de la justice dans cette lutte pour les causes de la femme. Je reviens vers vous, Madame Candide Mokama. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez des instruments juridiques qui devraient encadrer, protéger les femmes et les enfants dans cet État. Mais vous avez vu que déjà, cette plainte, ce témoignage des parents de cette dame tuée où le monsieur se trouve déjà en liberté.
Oui, nous avons un problème de vulgarisation aussi qui se pose au niveau du pays. Parce que tous ces instruments-là sont connus par la population de Bangui. Pas entièrement, mais quand même dans la population de Bangui, on maîtrise certains textes qui sont mis à disposition pour la protection de la femme. Mais dans l'arrière-pays, oui, il faut encore continuer cette vulgarisation-là, cette information portée à toute la population pour qu'on sache qu'il y a des textes qui protègent la femme. Aujourd'hui, c'est vrai, je fais retour sur ce que vient
Monsieur
de
Bindoumi,
dire Monsieur Bindoumi sur le genre. Nous avons vu qu'il faut vraiment accentuer la sensibilisation sur le genre. On en avait fait, mais il fut un moment où on ne faisait plus cette sensibilisation. Mais il faut reprendre cette sensibilisation parce que le fait que l'homme pense qu'il a le pouvoir de tout faire, de le pouvoir d'agir, ne lui donne pas vraiment raison de tuer sa femme.
Oui, mais c'est pourquoi votre ministère a initié beaucoup de textes matière. Mais ceux qui sont appelés à pousser les hommes à respecter leurs femmes, à ne pas tuer leurs femmes, ce sont les magistrats, mais déjà un monsieur qui vient de tuer se trouve en liberté. Mm-hmm. Est-ce que cela...
Je l'avais souligné tout à l'heure, impunité zéro, il faut l'appliquer. Quand on ne l'applique pas, ça ressort du gouvernement, c'est vrai. C'est pas dans le quartier qu'on va prendre l'auteur pour aller enfermer. Ça, c'est maintenant à la disposition de la justice pour agir selon ce qui doit se faire. Si nous, aujourd'hui, on a mis des textes, on fait des sensibilisations, on fait ceci, le ministère de la Justice doit prendre sa responsabilité. Mettre quelqu'un en un mois dehors, en tout cas, je pense que c'est banaliser le fait que la femme n'est rien dans ce monde, n'est rien dans ce pays. Il faut la tuer, il faut faire n'importe quoi sur la femme. Mais nous, notre mission de protéger la femme, nous pensons que ce n'est pas normal. Et peut-être qu'on va réfléchir sur ce qu'on doit faire communément, puisqu'on travaille dans le partenariat, c'est le gouvernement, pour voir ce qu'il faut faire vraiment pour que toutes ces choses qui se font de part et d'autre dans le cadre de la négligence par rapport à la femme soient vraiment enrayées dans ce pays.
Oui, Maître Alesson Bodibélé, en agissant ici, si pensez-vous que les gens auront l'espoir en justice de leur pays?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une perte totale de confiance en la justice centrafricaine de la part des Centrafricains. Parce que nous observons, on nous parle de zéro impunité, nous observons le deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit de crimes prétendus politiques, et je sais de quoi je parle, la célérité avec laquelle on appréhende le présumé coupable en Lombastille, le ministère public requiert une information, l'information arrive même au stade de la clôture et là, le ministère public piétine. Et pendant ce temps-là, des présumés innocents sont en prison, en détention. Et là, vous avez des cas de véritables coupables. C'est des cas de flagrant délit. Les voisins l'ont trouvé en train de tuer sa femme et lui-même, fièrement, a amené un couteau qui est parti déposer le corps à la morgue. Je vous parle de crimes tout à l'heure politiques, de présomption de culpabilité dans certaines infractions. Le prétexte aujourd'hui est l'appartenance à la CPC. Quand on dit de vous, attention au CPC, tout le monde peut aller croupir en prison. Et là, le ministère public, une fois qu'ils ont mis la main dessus, ne s'occupe plus de finir la procédure. J'ai des clients dans ce cas-là. Vous avez le général Ngaïfé, le lieutenant Konaté, le colonel Moussa Kitok et le ministre Maliyambo. Nous sommes à la phase où le ministère public, qui a requis la poursuite, a requis l'ouverture d'une information. L'instruction est finie et pour obtenir le réquisitoire afin d'avoir la clôture de cette information-là, alors là, maintenant, le ministère public pétine. Mais en ce qui concerne un officier ou un militaire, un délinquant qui tue sa femme, vous avez vu, la dame là a été choquée parce qu'elle a dit que c'est la justice. C'est un magistrat qui a laissé ce monsieur-là à l'extérieur. Il y a un problème sérieux ici, d'abord à divers niveaux. Au niveau de l'enseignement, moi je déplore que l'enseignement dont nous avons bénéficié n'est plus court aujourd'hui. Lorsque j'étais petite, il y avait l'enseignement civique, il y avait la leçon de morale. J'ai une sœur qui est institutrice à la retraite et qui m'a dit que ça ne se fait plus. Mais vous savez, pour changer les mentalités, il faut déjà commencer par former la mentalité. Il faut qu'un enfant sache. Moi, j'ai des enfants, j'ai été une femme qui a élevé deux fils. Et je leur ai enseigné que la femme est sacrée. Ils savent que la femme est sacrée parce qu'ils ont vu comment moi, je me suis débattue pour eux. Et pour cela, ils respectent les femmes. Mais lorsque vous avez l'exemple d'un homme qui bat sa femme, mais vous avez un futur assassin de femme en la personne d'un de ses fils. Voyez, on est contaminé par certains mauvais exemples. Voyez, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père formidable qui respectait sa femme et j'ai été éduqué comme ça. Et c'est comme ça que j'éduque également mes enfants. Donc, voyez, l'enseignement vient de la maison, de l'école, hein, et puis après, maintenant, nous arrivons au niveau social. Si au niveau social, une personne qui est censée connaître l'usage des armes... Vous savez, il y a un taximan qui me disait, mais jadis, on ne voyait pas des armes comme ça. Monsieur Bidoumi a dit ici que nous sommes en période de guerre, c'est vrai. Mais est-ce que pour autant, on ne peut pas veiller à ce que des gendarmes et des facas, lorsqu'ils quittent la caserne, leurs armes demeurent à la poudrière? C'était ce qui se faisait. On ne se baladait pas. Ou alors on comptait le nombre de vos munitions. Et lorsqu'ils manquaient une munition, ça posait des problèmes. Il y avait des questionnaires. La discipline. Un élément militaire non discipliné, disait Thomas Sankara, est comme une grenade dégoupillée. Mais nous assistons au phénomène maintenant.
Madame Léa Mboadoumta, ne craignez-vous pas qu'un tel acte pourrait alimenter la vindicte populaire ou la justice populaire, souvent décriée par les organisations de droits de l'homme et surtout votre organisation Aouline?
Tout à fait, mais arriver au vindicte, la vindicte populaire, c'est trop dire parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire pour que les comportements dénoncés par mon frère Bindoumi puissent remettre chacun à sa place. Et ma sœur Arlette a mentionné les questions d'éducation. Je suis institutrice, mais depuis 2000, j'ai quitté l'enseignement public parce que ce n'était plus de l'enseignement. C'était autre chose. Et je ne suis pas surprise de ce qui se passe aujourd'hui. Si les gens sont surpris, moi je ne suis pas surprise parce que je voyais venir tout cela aujourd'hui. Quand on parle d'un gendarme, quelle éducation il a reçue? Quand on parle d'un policier, il a reçu quelle éducation?
Éducation en même temps, formation.
Quand on prend le magistrat, quelle éducation il a reçue? La morale a été enterrée depuis des années. Et le résultat, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, il est question de reprendre les choses en main et que chacun joue son rôle dans le respect de la loi. Puisque la loi existe, on n'a qu'à l'appliquer, mais seulement, il faut du temps pour que les comportements puissent changer. Et même au niveau des couples, ce monsieur qui a tué son épouse, il a reçu quelle éducation? Et l'épouse, elle a reçu quelle éducation? Tout est basé sur les questions d'éducation maintenant, et de respect de la loi.
Maintenant que les victimes sont adultes, hein, sont devenues grandes, mais la loi, la justice devrait les éduquer en ce sens.
Oui, mais c'est quel type de magistrats nous avons devant nous? Est-ce qu'ils sont prêts à jouer leur rôle effectivement? Donc c'est cela, il faut que chacun sache qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre dans les normes et que chacun joue son rôle sans avoir même besoin d'avoir besoin de pression. On n'a pas besoin d'un inspecteur derrière soi pour jouer son rôle parce qu'on a été formé pour. Donc aujourd'hui, il faut un contrôleur, il faut un inspecteur pour qu'on fasse bien notre travail. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, la justice essaie de remettre les choses en place. Il y a aussi de bonnes graines. Il est question de féliciter les bonnes graines, de les encourager pour qu'on aille de l'avant. Parce que quand nous passons notre temps à ne parler que des mauvaises graines, à ce moment-là, je pense qu'on n'aura pas de résultat. Il faut voir qu'il y en a qui font des efforts et ceux-là doivent être encouragés. Par exemple, dans mon département, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place les questions de consommation de drogue. Parce que nous avons un texte qui interdit la consommation des produits comme les chefs et autres. Mais pour le faire, on a besoin des policiers, on a besoin des gendarmes qui ne prennent, parce que quand ils prennent les produits, eux, ils ne prennent pas pour aller brûler, mais pour faire autre chose. Eux aussi, ils vont consommer. Donc c'est tout cela qu'il faut, parce que tant que nos enfants, nos jeunes, continuent de consommer ces produits toxiques, eh bien, ils vont toujours s'en prendre à nous. Donc c'est une situation qui a duré pendant plusieurs décennies. Moi, j'ai vu ça depuis 40 ans et aujourd'hui, nous sommes en train de nous attaquer à cela. Et nous avons, comme l'a dit ma fille des affaires sociales, nous avons besoin de tout le monde. Et les dénonciations, comme les femmes leaders l'ont fait, c'est une bonne chose pour attirer l'attention, tirer sur la sonnette d'alarme pour qu'on arrête que les familles vivent en harmonie et que quand quelqu'un meurt, qu'il meure d'une mort naturelle. Donc, voilà ce que je...
Voilà, Joseph Bindoumi, je rappelle que vous êtes inspecteur général des services judiciaires. Dans ce débat, quel type de sanctions pour infliger à un magistrat qui ne fait pas bien son travail avec ce témoignage que vous venez d'écouter?
Alors, moi, je vais vous répondre très sincèrement. Vous savez, la République centrafricaine est un pays africain. Nous sommes un pays africain d'Afrique centrale. Et notre pays a la particularité d'être plus pays plus africain que africain. Je vais vous donner quelques exemples. Oui. Un pays africain, c'est lorsque
davantage, hein.
Voilà, lorsque on prend les grands principes, au moment de les mettre en œuvre, on fait juste le contraire. En ce qui concerne la lutte contre l'impunité, qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Le chef de l'État a dit, à l'occasion de la rentrée des cours et tribunaux, qu'à partir d'aujourd'hui, l'impunité, c'est zéro. On ne peut plus pardonner. Il a ajouté qu'il donnait une mission à l'inspection générale des services judiciaires d'aller non seulement encourager les gens qui luttent contre l'impunité, mais rechercher parmi les magistrats ceux qui ne respectent pas les règles de leur déontologie. Et le lendemain, le ministre de la Justice, le ministre d'État à la Justice, a repris la parole pour donner ses instructions. Alors comment comprendre?
Donc vous avez déjà un cas, hein, déjà.
Voilà,
cas.
Voilà. Comment comprendre donc, dans ces conditions, Armando, que les magistrats informaient de l'existence d'un crime, alors même que l'auteur a été arrêté, se permettent avec une certaine légérité de libérer la personne et de renvoyer cette personne devant sa famille, sans que leur comportement ne fasse peur, ne leur fasse pas peur de la présence du ministre de la Justice, de l'inspection générale des services judiciaires, ça ne leur dit rien. Ça veut dire que nous sommes dans un monde pratiquement considéré comme à part. Alors, vous me demandez, lorsqu'un magistrat ne fait pas bien son travail, je vous assure, les règles qui sanctionnent les magistrats sont plus sévères que les règles qui sanctionnent tout le monde. Parce que, en fait, le magistrat, même le simple intention de ne pas faire, même s'il n'a pas posé, constitue déjà une faute. Donc, le magistrat, c'est quelqu'un dont le comportement est regardé à la loupe. Est-ce que vous comprenez?
Absolument.
Même le simple fait que vous ne laissez pas parler quelqu'un qui est devant vous pour bien l'écouter, c'est une faute. Le fait que vous faites un jugement, mais que vous ne sortez pas la décision pour qu'on ait... C'est une faute.
Mais est-ce qu'une seule fois, l'inspection générale des services judiciaires a pu sanctionner un magistrat dans ce sens?
Voilà, c'est-à-dire que je voudrais... Vous me posez bien la question, ce n'est pas l'inspection qui sanctionne. L'inspection l'inspection découvre la faute, fait rapport sur la faute, saisit le ministre de la Justice... qui saisit les organes qui sanctionnent. C'est-à-dire qu'au niveau de la justice, on ne prend pas la décision de sanctionner quelqu'un comme ça. Donc on constate sa faute et on saisit le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire. Donc on vous envoie dans un procès et vous allez au procès comme à la cour criminelle et la sanction, c'est qu'on peut vous révoquer définitivement de votre travail.
Mais est-ce que cela a été déjà fait
pour
éduquer les autres, c'est ça ma question tout à
l'heure. Vous avez bien fait. Alors, je vous donne un exemple bête. Le président Kolingba André est resté 12 ans au pouvoir. En 12 ans, il a révoqué 10 magistrats. 10 magistrats, ça veut dire que...
C'est en 1987.
Ce que je dis, c'est-à-dire qu'il a fait, mais quand on dit qu'il a révoqué 10 magistrats, le nombre de magistrats qui ont eu des abaissements d'échelon, des sanctions, des déplacements d'office, dépasse suffisamment cela.
Presque 40 ans après,
voilà.
Ça se voit.
Bon, on se rend compte aujourd'hui que ces précédents existent. Mais on devrait regarder ces précédents pour ne pas avoir à recommencer. Et là, aujourd'hui, sans violer le secret professionnel, le chef de l'État a donné des instructions, des enquêtes suffisantes ont été déjà menées et sont en cours. Et le ministre de la Justice a déjà saisi le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire pour déjà, dans le mois en cours, plus de 4 cas. Et nous sommes sûrs qu'avant la fin de l'année, on pourrait avoir jusqu'à 10 cas de magistrats qui vont aller répondre de leurs actes. Donc il y a...
Oui, je ne vous coupe pas, mais nous allons écouter le dernier témoignage de ce jeune homme qui a vu sa mère tomber sous les balles de son papa militaire.
Depuis hier, mon père s'est lancé dans la prise de l'alcool toute la journée. Il est rentré dans les environs d'une heure du matin. Très tôt ce matin, il est sorti avec son arme de service pour aller récupérer sa moto en réparation. Dès son retour, il a tiré sur mon petit frère au niveau de son épaule. J'étais dans la chambre. Quand je sortais, il a encore tiré 2 balles dans la tête de ma mère. elle est tombée. C'est moi qui ai fermé le sélecteur de son arme pour remettre à nos chefs hiérarchiques de la gendarmerie venus faire le constat de l'acte.
Voilà, ressaisissez-vous les dames, je crois que c'est un peu douloureux. Mais voilà, c'est ça. Voilà, dans ce cas, Madame Jacqueline Koyambonou, je vois que ça vous pique. Vous avez relevé ce cas, hein, vous, au niveau de votre organisation féminine pour les causes des femmes.
Oui, nous avons relevé ce cas, c'est au niveau du 5e arrondissement. C'est la mère de 7 enfants qui a été tuée à Malimaka par son époux gendarme. Mais je pense qu'il va falloir que nous sensibilisons les populations sur le changement de comportement et de mentalité. Et aussi les FSI, il faut qu'ils connaissent leur rôle. Leur rôle de protéger les personnes et leurs biens. Ils n'ont pas le droit de tuer avec les armes du peuple centrafricain mis à leur disposition pour la protection du territoire. Et comme disait Madame Arlette tout à l'heure, je pense qu'il va falloir que l'État voit dans quelle mesure, quand le militaire finit son travail, qu'il garde son arme dans la caserne au lieu de rentrer avec à la maison et on les retrouve avec dans les bars. Comment quelqu'un peut s'asseoir dans les bars avec une arme? On voit les militaires sur les motos avec une arme. Moi, je suis du métier d'arme. Oui, je sais que si une arme est déjà armée, il y a une balle qui est déjà partie dans la chambre. Et si, pour une petite erreur, votre main touche la détente, la balle est sortie. Donc, sur la moto, s'il y a un cas d'accident et que la détente est déclenchée, mais peut-être c'est l'arme qui va aller tuer des gens. Hein?
Est-ce que c'est une arme de service ou bien c'est son arme personnelle, on ne sait pas.
Si, si. Le témoignage du fils a dit que c'était son arme.
C'est son arme
qui
de service.
Qui a été rendue à la gendarmerie.
Ouais. C'est son arme de service. Hein. C'est son arme de service. Service. Oui, oui. C'est son arme de service. Mais je me dis, hein, avec les armes de service, même si on a l'arme, je suis du métier, je suis à la maison comme ça. J'ai mon arme de service. S'il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce que moi seul je peux faire avec mon arme de service? Dites-le moi. Moi seul dans ma maison, s'il y a des coups de feu partout, moi seul avec mon arme, une arme chez moi, là, est-ce que je peux défendre le pays avec ça? Moi, je pense qu'il va falloir remettre les militaires dans les casernes. Comme ça, si le pays est attaqué, ils vont sortir en groupe pour défendre le pays. Moi, je pense.
Oui, Madame Arlette Somodibele, oui, sur ce point, vous voulez réagir rapidement.
Je rebondis rapidement d'abord sur le fait de mettre les militaires en caserne. C'était le projet du chef de l'État et j'espère qu'il aboutira. Mais maintenant, je vous parlais du phénomène social. Ah, je suis heureuse de pouvoir en parler. Vous avez entendu ce jeune homme dire que son père a passé la journée à boire. Le commerce de l'alcool en Centrafrique est le commerce le plus fructueux, celui qui rapporte le plus juteux. Vous n'avez pas un jour où quelqu'un n'ouvre une gargote. Regardez sur l'avenue de France. Comptez le nombre de débuts de boissons qu'il y a jusqu'à arriver en ville. Et vous avez absolument zéro contrôle de l'âge de ceux qui vivent dans ces gargotes. Hein? Il y a le phénomène social est là. Le commerce de l'alcool. Je suis heureuse que Madame Mboua et dit que des mesures vont être prises par rapport à certains produits, mais je pense qu'il faudrait trouver une solution avec le ministre de l'Intérieur, il me semble, pour que les débuts de boissons, comme on avait fait à une époque, M. Kolingba, il me semble, à un certain jour, à une certaine heure, il va falloir quand même qu'on arrête. Nous sommes sous le régime
que ça soit réglementé.
De couvre-feu, du couvre-feu.
Oui. À 22h.
Mais écoutez, moi j'entends. Lorsque l'heure du couvre-feu est arrivée, mais on continue derrière. Ouais. Et il y a également ce phénomène qui touche les éléments chargés de la sécurité. Vous voyez, je ne veux pas faire de la délation, mais je pense que nous tous pouvons savoir qu'il n'y a pas plus consommateur d'alcool que absolument ceux qui sont chargés de veiller à notre sécurité. Vous voyez, dernièrement, dans ma rue, dans mon quartier Sika 3, il y a eu un braquage. 2h du matin, j'étais éveillé, en prière, et on entend dans ma rue des gens. Le lendemain, lorsque j'ai demandé aux jeunes du quartier, il y en a un qui m'a dit, maman, mais c'était les gens en tenue militaire. Hein? Nous, on était à l'intérieur, parce que c'était l'heure du couvre-feu. Le matin, dès qu'ils ont pu sortir, trouver un carton de sardines, un carton de mouchoirs à jeter. Vous voyez, qu'est-ce qui a commis ce forfait-là? Il va vraiment falloir qu'on éduque les militaires. On doit les astreindre à une discipline de fer. Parce que ce sont des gens qui occupent une position très sensible. Ils basculent rapidement de protecteur de la vie humaine à destructeur de cette ville.
Oui, madame Candide Mokama, sur ce dernier témoignage.
Oui, je crois que réagir. Nous avons vraiment du chemin à faire. Il faut reconstruire. Cela fait appel à l'engagement de tous, comme on est en train de le dire. C'est vrai, nous en parlons aujourd'hui, c'est triste. Mais il faudrait que la communauté réagisse. Il faudrait que chacun se soit responsable, se sente responsable. Responsable de lui-même et responsable des autres. Parce que tout ce que nous faisons, les dispositions sont prises, tout ce que nous faisons, c'est plutôt, comme l'a dit tout à l'heure Excellence, c'est un problème de changement de comportement. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, si nous avons hérité ça parce qu'il y a eu des crises ou bien parce que nous ne sommes pas dans nos familles, nous n'avons pas reçu de bonne éducation, il est temps qu'on se ressaisisse. Hein, de voir les femmes mourir comme du jeu, comme ça, ce n'est pas bon. Nous, dans notre ministère, nous sommes en train de parler de la protection de la famille maintenant. La famille en soi, qui est composée de papa et maman, il y a ce problème de sensibilisation qu'on doit mener à tous les niveaux. Hein, pour vraiment éduquer les familles, éduquer les parents, mais aussi l'implication des hommes dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Parce que de toutes les manières, tout ce qui est fait sur la femme, il faudrait que l'homme comprenne que c'est un être comme tout autre. Et cette personne-là doit être protégée. Et si l'homme s'engage dans cette lutte, je pense que c'est lui l'acteur principal. Ce changement de comportement va modifier beaucoup de choses. C'est pourquoi dans nos programmes d'activité, nous avons vraiment une action sur l'implication des hommes. Parce que depuis toujours, c'est vrai, on parle de violences basées sur les genres aux femmes. Mais qui mène ces actions-là? Ce sont les hommes, les auteurs, la majorité des auteurs, c'est des hommes. C'est des conjoints, c'est dans la famille et autres, tout ça. Donc il faut maintenant impliquer toute la famille, l'homme, la femme, les enfants, tout ça là, pour que vraiment on arrive à lutter contre les violences basées sur le genre. Je pense que ce travail va être fait par le gouvernement à travers tous nos plans d'action que nous aurons. Nous avons une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous allons l'adapter. Nous avons la loi sur la parité et tout ça là, le code de la famille qui a été réactualisé, tout ça là, c'est des instruments. Maintenant, il faut l'application. L'application va être faite par qui? Ça va être fait aussi bien le gouvernement, la communauté, la société civile, les familles et tout ce monde-là. Il faudrait que tous s'engagent là-dedans. Si nous ne nous engageons pas, nous pensons que c'est l'histoire des autres, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est cette famille, mais demain, ça peut être ma famille. Il faudrait qu'on soit ensemble, qu'on se soutienne pour pouvoir avancer. C'est ce que je peux dire.
Voilà, à toutes les femmes centrafricaines d'ici et d'ailleurs, je pense que cette émission est dédiée à vous. Hein. On prend les exemples de Bangui pour parler de ce qui arrive à une femme, à Ndélé, à toi, la femme de Berbrati, de Carnot, de Boire et autres. Oui, madame Léa Mboadoumta, oui. Vous voulez réagir sur ce dernier témoignage pour qu'on regarde maintenant quelles sont les actions des femmes. Hein, les femmes elles-mêmes, est-ce qu'elles sont soudées sur certains points qui les touchent?
Exactement. Quand ma sœur Jacqueline a parlé de la déclaration que les femmes ont faite, ça a été une action commune. Et soutenu même par le département de la famille, parce que la société civile doit jouer son rôle pour appuyer le gouvernement dans ses actions de protection des populations. Et pour ce qui concerne la vadrouille des hommes en tenue, je pense qu'au PK22, dernièrement, nous avons le chef de l'État a inauguré une caserne pour que les militaires ne soient pas avec leurs armes et leurs tenues en train d'intimider les populations. Et ça, moi, j'habite dans un quartier où nous vivons ces intimidations. Mais lorsque nous nous référons à leur chef hiérarchique, ils pensent qu'ils sont rappelés à l'ordre. Mais bon, ça se fait peut-être parce que j'ai un titre de ministre. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas ce titre-là? Est-ce qu'ils sont écoutés comme moi? Pour ce qui concerne l'implication des hommes, je voudrais saluer l'intervention du président de l'Assemblée nationale qui, dans son discours hier, a lancé un message fort à ces hommes qui sont en train de tuer leurs épouses. En donnant ce message, il engage les députés de la nation pour qu'eux aussi, ils apportent leur contribution dans chacune de leurs circonscriptions pour que les femmes soient respectées. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes sur des programmes avec le département de la promotion du genre. La Banque mondiale est en train de chercher à nous appuyer pour que nous, les femmes, nous connaissions nos droits et que nous soyons en mesure de nous défendre et qu'on n'attende pas que quelqu'un vienne nous défendre. Et il y va également de notre comportement au sein des familles pour ne pas pousser à des crimes passionnels. Et c'est pour cela que j'ai parlé fortement de l'éducation. L'éducation dans les écoles, l'éducation dans les familles, elle est extrêmement importante pour réduire les violences faites sur les femmes et aussi faites sur les communautés.
Monsieur Joseph Bindoumé, sur ce dernier point, on lance un appel à toutes les couches sociales pour lutter contre ce phénomène qui touche les femmes maintenant. Mais quelles sont aussi les actions, selon vous, qui pourraient aider les femmes d'ici ou d'ailleurs à l'intérieur du pays afin qu'elles soient protégées davantage?
Alors moi, je vais vous dire des choses certainement qui vont vous surprendre. C'est que nous avons parlé des hommes qui tuent leurs femmes, mais il y a eu des points sur lesquels nous ne sommes pas revenus. Il y a des femmes qui ont constaté qu'elles vivaient la violence. Mais lorsqu'elles en ont parlé à leur propre famille, pour dire « Attendez, mon mari me bat tous les jours, je n'accepte plus », ce sont ses parents, ses propres parents qui ont amené cette femme pour dire que tu n'as pas le droit.
Mm-hmm. Les enfants.
Cela. Bon, on amène vers le bourreau et ça peut conduire jusqu'à la mort.
Parce que le bourreau a de l'argent.
Bon, alors, on a eu aussi des cas de femmes considérées comme victimes volontaires. C'est-à-dire que quand une femme, et ça je m'adresse à vos associations, lorsque une femme se rend compte qu'elle a un mari violent, mais elle ne peut pas continuer de prétendre que c'est mon mari, que c'est mon père, mes enfants, que je ne bouge pas, et puis qu'elle reste là avec le mari violent jusqu'à ce que mort s'en suive.
Il y a le syndrome de Stockholm, hein. Il y a un aspect psychologique là-dedans. Hein.
Bon, la troisième, c'est l'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, nous critiquons les acteurs judiciaires, juges et autres qui libèrent les gens, mais vous ne critiquez pas les confessions religieuses des pasteurs qui, lorsqu'il y a un crime, et que la justice est saisie, la brigade criminelle, etc., est saisie, vous voyez des gens vêtus de manteau de pasteur ou de quelque chose qui arrivent dans la famille pour dire que Dieu a dit que ça c'est machin, que rien ne peut arriver tant que Dieu n'a pas autorisé, et puis qu'il vaut mieux que ça soit réglé, etc., etc. Et puis, si par hasard, et c'est là que j'ouvre une autre petite parenthèse, le juge est diacre dans une église, puisque maintenant tout le monde va dans ces choses-là. Bon, le juge va écouter son pasteur et puis on va laisser des gens en liberté. Je pense que nous avons un travail à faire sur toute l'étendue de la société. Si vous avez votre fille qui vit une vie difficile et qu'elle se plaint, ne l'encouragez pas à aller vers la mort. Et puis si vous êtes femme majeure, que vous constatez que celui qui est avec vous a des tendances à lever votre vie, il faut s'arrêter aux confessions religieuses, rester dans vos églises, laisser la justice faire son travail lorsque nous avons ces situations.
Madame Arlette, rapidement, est-ce qu'on peut voir avec vous la mobilisation des femmes dans ce sens?
Oui, d'abord, sur ce qu'a dit M. Bitoumi, par rapport aux confessions religieuses, aux interventions des pasteurs, prêtres et autres. Écoutez, il faut que chacun ait du discernement. Dieu m'a dit, mais dans la Bible, il est marqué, tu ne tueras pas. Absolument. Ça, c'est clair. Hein? Et plusieurs situations où un homme, serviteur de Dieu, s'est fait assassin, n'est pas resté impuni. David a provoqué la mort d'Uri, qui était le mari de celle qu'il avait séduite. Et pour cacher cela, il a envoyé à la mort. Et il a été puni. Donc c'est pour vous montrer que Dieu lui-même est un Dieu de justice. David a payé le prix de son premier enfant qu'il a conçu avec Bethsabée. Vous voyez ? Non, écoutez, il y a un problème. C'est que les gens ne veulent pas se donner la peine de lire dans le texte, de rechercher eux-mêmes la relation avec Dieu. Ils préfèrent recevoir des « on m'a dit, Dieu parle à tout le monde ». Depuis que Jésus-Christ est mort, Dieu s'adresse à tout le monde parce que le voile du temple est déchiré.
On va faire la Bible ici rapidement.
Il fallait que je revienne.
Je vous remercie pour votre meilleure connaissance de la Bible.
On n'est pas dans la Bible, on revient maintenant.
Non, la Bible est partout. Vous savez, toutes nos règles là, code pénal, civil,
ça c'est vrai, mais on parle du cas du féminicide.
Parlons du cas du féminicide. Moi, je voudrais que l'on sache qu'il y a en psychologie, je ne suis pas psychologue, mais j'ai quand même lu, Le phénomène dit syndrome de Stockholm. Vous avez quelqu'un qui est tenu par son bourreau, hein, et il y a un réflexe de rechercher encore de la protection vers ce bourreau-là. Alors arrêtez de dire que la femme qui sait qu'elle est torturée, vous-même, monsieur Boudemou, vous avez dit que la famille ramène, voilà, connais-tu là, c'est ton mari, mais souvent la famille, elle est intéressée. Et puis cette femme-là quand même, mais c'est l'homme avec qui elle a eu des enfants, pour qui elle a des sentiments. Toutes les femmes n'ont pas le même tempérament. Vous avez celles qui peuvent très bien se défaire d'un homme, parce qu'elles peuvent se battre toutes seules. Vous avez celles qui n'ont eu à vivre qu'avec ce monsieur-là, qui ne peuvent pas se débrouiller. Mais cela ne donne pas la raison pour que cet homme-là la prenne pour sa chose, hein, qu'il peut en user à merci. Il y a
à lumière des cadres de quatre ministères. Sécurité publique, affaires sociales, justice, santé. Alors, avec ce genre de ramification-là, il n'y a pas moyen de faire quelque chose ? N'est-il pas possible qu'il y ait une cellule d'information après une cellule d'intervention ? Je pense que nous avons de très beaux textes, mais il faut être pragmatique. Il faut trouver le moyen de faire application de ces textes-là. Et c'est ce qu'il nous faut fait défaut en Centrafrique. Et nous avons dit, moi je suis d'accord avec Madame Mboua, que le problème, il est d'abord dans nos mentalités. Mmh. Il est d'abord dans ce que nous appréhendons dans la relation femme-enfant. Femme-époux.
Enfants aussi d'ailleurs, qui subissent des
tout ça, c'est, voilà, violences. C'est la composante directe de la famille.
Exactement. Et,
oui, Madame, je veux dire qu'il faut voir ce problème dans la globalité. Toute la société est en ce moment malade. Toute la société est malade. Le fait de vivre ces atrocités et d'être des témoins et autres, tout le monde est malade en ce moment dans ce pays. C'est pour dire que si tout le monde est malade, il faut aller se soigner. Se soigner comment ? Nous avons des services psychosociaux. Hein? Le jeune qui vient de témoigner, je crois qu'il a ça dans sa tête. Peut-être qu'il y a l'esprit de vengeance qui est là. Donc c'est pour dire qu'il faut vraiment mettre ces services-là.
Pas seulement à Bangui, mais dans
tout le pays. Oui, un peu partout pour que les gens aillent se soigner. Parce que tous les Centrafricains sont malades. C'est ce que je voulais dire.
Madame Jacqueline Koyambounou, je rappelle que vous êtes générale de police dans ce débat. Vous avez votre organisation, vous avez fait une déclaration pour condamner tous ces meurtres ces derniers temps. Mais et la suite ?
Et la suite, nous sommes en train de rédiger un mémorandum pour remettre aux autorités du pays. Parce que nous avons constaté qu'au début, quand l'UMIR était mise en place, mais dès que tu parles du mur, mais les hommes tremblaient. Mais aujourd'hui...
Vous voulez parler d'un relâchement.
D'un relâchement, il y a un laxisme qui est installé et tout. Donc nous sommes en train de rédiger le mémorandum. Peut-être dans les jours à venir, on va remettre aux autorités du pays.
L'UMIR et à Bangui, pense... mais pas à Boire, mais pas dans d'autres...
Non, l'UMIR est seulement à Bangui. Il faut extensionner dans les autres provinces également. Et je voulais aussi dire que si toutes ces choses-là avaient... Et qu'il y a impunité, l'impunité qui s'installe, c'est par rapport aussi aux moyens de subsistance de nos hommes en tenue et même au niveau de la magistrature. Donc je pense qu'il va falloir lutter efficacement contre la corruption. Lutter efficacement contre la corruption. Et au niveau des femmes leaders, nous allons nous organiser pour suivre maintenant dans tous les services de police ou à la gendarmerie les dames qui seront victimes de violences sexuelles. Au niveau des femmes juristes, il y a des avocats qui soutiennent les victimes, mais beaucoup de femmes ne le savent pas. Donc il va falloir sensibiliser ces femmes-là à dénoncer, comme elles nous disent qu'elles n'ont pas de moyens pour commettre un avocat. Donc on va les orienter vers l'association des femmes juristes qui pourra mettre à leur disposition des avocats.
Une dernière petite question avec vous, je vous coupe rapidement qu'on gagne du temps. Avec tout ce qui se passe, on voit seulement les femmes dans leur coin, celles de Boire à part, celles de Bangui, Berbrati, mais quel est votre champ d'action pour que ça couvre toute l'étendue du territoire avec les femmes, s'il y a des organisations, des manifestations pour plaider?
Non, au niveau des femmes leaders, nous organisons des sensibilisations sur le territoire national. Tout dernièrement, j'étais à Boire, et à Bambaré et à Bangassou. Donc nous travaillons aussi avec les femmes des arrière-pays. Mais le problème est qu'il va falloir qu'on s'organise pour le faire.
Madame Léa Mboua-Doumta, quelques mots rapidement pour qu'on boucle ce débat d'aujourd'hui.
Non, je voudrais parler de l'UMIR, est une structure temporaire pour permettre au département cité ici de se mettre en place progressivement. Parce que de toutes les façons, ce sont ces départements ministériels-là, justice, affaires sociales, sécurité, ils doivent travailler en synergie pour la protection des populations. Mais si la synergie n'est pas, c'est là où les populations en pâtissent.
Je voudrais rappeler ici que nous travaillons avec nos structures déconcentrées. Nous avons les chefs secteurs dans les 8 arrondissements, 10 arrondissements de Bangui et dans les préfectures. En principe, pour ce genre de cas, lutte contre la violence, nous avons ces acteurs-là qui travaillent pour le référencement, tout ça, pour les conseils et tout ça. C'est parce que les gens ne maîtrisent pas, mais c'est mieux de se rapprocher de ces services-là au cas où il y a différents problèmes. Parce qu'il faut d'abord dénoncer.
De ces services spécialisés
là, qui peuvent remonter et qui savent quoi faire pour des cas de lutte contre la violence basée sur le genre.
Voilà, fin de ce débat politique d'aujourd'hui sur
Radio Ndekeluka. Nous l'avons consacré au meurtre des femmes en Centrafrique. Merci à tous nos invités d'avoir pris part à ce rendez-vous. Patara, placé sous la supervision de Brice Landrin Dangui, rédacteur en chef de Radio Ndekeluka. Je rappelle que nous avons reçu autour de cette table Maître Arlette Sombodibile, avocate et membre de la société civile. Merci aussi à Madame Jacqueline Koyambounou, qui est aussi juriste, présidente du caucus des femmes leaders pour la promotion de la parité. Madame Léa Mboadoumta aussi, merci pour votre participation. Vous êtes ministre et coordinatrice de la plateforme Biocaucus Soutient le Pouvoir et aussi présidente de l'association Aulin. Madame Candide Mokama aussi, merci, directrice de l'information et de l'éducation en matière du genre. Merci aussi à Monsieur Joseph Bindoumi, inspecteur général des services judiciaires en République centrafricaine. J'ai bénéficié de l'appui technique de toute la rédaction de Radio Ndekeluka. Merci à vous, à la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Au revoir.